L'écho des gnous, votre guide dans le monde libre. Sur Radio Campus 106.6, le libre n'est pas une jungle. Le libre n'est pas une jungle comme le logiciel privateur. L'écho des gnous.
Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'écho des gnous, l'émission qui vous explique l'informatique libre. Aujourd'hui, ça va être une émission un petit peu spéciale qui n'est pas enregistrée en studio en direct, mais que j'enregistre tout seul depuis mon bureau, parce que c'est un petit peu compliqué de faire des enregistrements en ligne en même temps. On a eu des retours comme quoi la qualité audio n'était pas très bonne, donc on s'en excuse, et donc pour les émissions en différé, ben je vais tenter de le faire comme ça en solo avec un peu de traitement pour améliorer la qualité sonore. Je vous laisse faire des retours pour voir un peu si c'est mieux comme ça ou s'il faut juste qu'on abandonne l'idée et que dans ce cas il faille à chaque fois aller en studio, ce qui n'est pas forcément facile quand il y a des annulations pour des raisons de vie familial, forcément aller en studio n'est pas non plus nécessairement une solution adéquate. Donc toujours est-il que là, j'avais pas envie qu'il y ait 2 mois sans émission au total, parce que la dernière émission date quand même de mi-octobre. Donc pour cette fois-ci, pour cette émission de début décembre, ce sera une émission en solo. Donc je vais prendre un peu de tout dans les actualités des dernières semaines, je laisserai Alexandre faire un peu de montage pour ajouter éventuellement de la musique au bon moment, ce genre de choses. Et en tout cas, je vous souhaite une bonne émission, j'espère que le format comme ça vous plaira. Donc contrairement à d'habitude, les actualités vont être un peu plus déroulées, il y en aura moins, mais on va creuser un petit peu plus. Puis il y a eu quand même pas mal de choses ces dernières semaines, donc ça va être un peu l'occasion. Donc la première chose dont je voudrais parler, la première actualité, je voudrais reparler un petit peu de ce qu'est Internet, parce que c'est assez drôle ce qui s'est passé, enfin c'est assez drôle, c'est une façon de parler. On a eu 2 pannes majeures qui ont impacté des millions de sites web, ça a été une catastrophe. Alors la première panne, ça a été AWS le 20 octobre, donc ça a impacté des services, alors Amazon, forcément, donc Amazon Web Services, donc forcément ça a impacté Alexa d'Amazon, mais ça a impacté aussi des services comme Snapchat, Fortnite, Epic, donc l'éditeur de jeux vidéo, ChatGPT, AutoCAD, Docker, plein de grandes applications qui ont été coupées pendant plusieurs heures. Et un petit peu plus récemment, donc c'est arrivé au mois de novembre, c'est arrivé là il y a une dizaine de jours, donc le 18 novembre. Donc, à nouveau, des services comme ChatGPT, Twitter, X, Facebook, Spotify, Canva, Feedly, Marmiton, Doxissimo et des tas d'autres sites qui ont été indisponibles pendant environ 3 heures le 18 novembre. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Déjà, je vais juste profiter avant de parler de ces pannes exactement. Je voudrais rappeler un principe fondamental d'Internet. Internet a été créé par les militaires, l'armée américaine, pour avoir un système résilient. Normalement, une panne comme ça, c'est impossible. On peut pas avoir tout qui tombe d'un coup. C'est pas vrai, le système est conçu pour survivre. Si, on va reprendre le petit de la guerre froide. Si une bombe atomique tombe sur Paris, certes on ne peut plus joindre les serveurs qui sont à Paris, mais on peut encore utiliser Internet. Internet est résilient. Comment ça se fait que si une entreprise comme Cloudflare ou Amazon fait une erreur, parce que là c'est ce qui s'est passé, ce sont des erreurs, comment ça se fait que si ces entreprises font une erreur, alors tout Internet, ou des milliers en tout cas, des milliers de sites, des pans entiers d'Internet tombent? Et ben en fait, c'est parce que le capitalisme, finalement, le modèle commercial avec des grandes entreprises qui, par leur fonctionnement, par le principe des économies d'échelle, parce que ça leur permet d'acheter du matériel, voire de faire concevoir du matériel parfaitement adapté à leurs besoins, ce fonctionnement-là n'est pas compatible finalement avec la résilience inhérente qui était censée avoir Internet. Donc on se retrouve tous, qu'on le veuille ou non, on se retrouve tous à dépendre de ces entreprises, de ces services. Cloudflare est utilisé pour les noms de domaine, et pour fournir un service de CDN. Donc, c'est-à-dire que vous êtes une entreprise lambda, vous voulez fournir un service à travers le monde sur Internet, et vous voulez améliorer les performances, utiliser un CDN, ça peut être une solution, parce qu'en fait, vous allez donner à Cloudflare directement certaines des données, et ils vont les héberger à différents endroits dans le monde, au plus près des usagers. Donc c'est une solution pour améliorer les performances. Mais en faisant ça, ce qui se passe, c'est que si Cloudflare fait une erreur et que son réseau tombe, ce qui s'est passé, votre site tombe avec. C'est assez normal jusqu'à maintenant. Mettons, il y a 20 ans, si vous hébergiez un site web sur, je sais pas, les services de Free, d'Orange, enfin de France Télé, enfin de Wanadoo, je crois, à l'époque, ou chez OVH ou autre, OVH tombe, ben votre site qui est chez OVH tombe. C'est assez normal. Le truc qui est vraiment différent maintenant avec des acteurs comme Cloudflare et AWS, c'est leur importance, la centralisation qu'ils ont opérée. Là, donc, on a parlé de la panne de Cloudflare, il y a une panne aussi chez Amazon. Alors, on va pas parler de tous les détails techniques, hein, il y a eu des problèmes avec des bases de données en interne, il y a eu des problèmes avec les DNS. Mais donc, en gros, leur base de données principale qui est DynamoDB a eu un incident, je vais pas rentrer dans les détails techniques, j'avoue c'est pas le truc le plus intéressant à faire, surtout pour une émission de radio, mais lorsqu'ils se sont rendus compte du problème, il y a des incidents qui se sont produits et ça s'est cascadé partout, et donc en plus il a fallu des heures pour les parts. Et tout ça, ça a lieu au sein d'opérateurs qui sont devenus tellement gros que ils ne peuvent plus tomber. Et là où je questionne aussi la chose, qu'est-ce qui se passe si demain, mettons, à cause de gros investissements dans une bulle spéculative qui s'appellerait l'intelligence artificielle, mettons demain Amazon ferme à cause de ces mauvais investissements dans l'IA, ce qui est tout à fait possible. On pourrait faire une émission, mais ça serait plutôt de la finance que de l'informatique, mais on pourrait faire une émission pour parler de ce qui est en train de se passer autour de l'intelligence artificielle et qui est franchement inquiétant d'un point de vue financier. Bref, c'est pas le sujet. Mais si demain une entreprise comme Amazon fermait, qu'est-ce qui se passerait dans le monde? Quelles seraient les conséquences sur l'état d'Internet? J'avoue, je veux même pas y penser. Et donc là, on a bien vu que ce soit AWS ou Cloudflare, une simple panne, ça devient le titre des journaux, parce que ça impacte un pan énorme d'Internet. Et c'est contraire, finalement, à ce qu'est supposé être Internet, et à ce que nous, ici, on défend. On défend un Internet ouvert, et in fine, décentralisé, parce que, justement, on veut que tout le monde puisse avoir son rôle sur Internet. Alors, là, vous avez peut-être remarqué, ces dernières semaines, le site de l'Économie Nous a eu quelques indisponibilités, c'est parce que j'ai eu un problème de matériel sur le réseau, là où j'ai le serveur qui héberge l'émission. Mais ça n'a impacté que l'écho des GNU. Et par contre, lorsque des sites comme Cloudflare ou AWS tombent, l'écho des GNU n'est pas impacté. C'est un compromis, c'est un choix. Après avoir parlé d'Internet, on va continuer un petit peu du côté des grandes entreprises. Je voudrais rappeler, alors, un vieux combat. Un très vieux combat. Moi, je me souviens, j'étais en lycéen quand on parlait de ces combats-là. J'étais fier d'encoder mes CD en Ogg Vorbis plutôt qu'en MP3, parce que ça faisait partie de cette bataille. On va parler un petit peu de brevets et de frais de licence, de frais d'utilisation, justement, des technologies brevetées. Donc, qu'est-ce qu'un brevet ? Un petit rappel, un brevet, donc c'est de la propriété intellectuelle, ce n'est pas autorisé sur les logiciels en Europe, c'est pour ça que ce combat, nous, en tout cas en Europe, on n'en parle plus, parce que le combat est gagné depuis longtemps, avec des grandes voix, beaucoup de gens qui s'étaient joints à ce combat-là. On avait déjà parlé, on avait d'ailleurs rendu hommage lors de son décès à Michel Rocard, qui avait participé à ce combat-là en Europe. Mais donc, les brevets, c'est toujours une histoire qui existe ailleurs dans le monde, et notamment ce qui se brevette bien, parce que c'est facile de démontrer une innovation là-dessus, et les offices de brevets américains sont quand même assez laxistes sur le fait de fournir ce genre de brevets, puisque c'est autorisé là-bas. Là où il y a beaucoup de brevets, c'est sur tout ce qui est codec, donc format d'encodage vidéo et audio. Alors les audios, on n'en parle plus trop, notamment le MP3 maintenant n'est plus couvert par les brevets, de mémoire ils ont expiré. Mais par contre, sur la vidéo, c'est encore couvert de brevets. Est-ce que ça vous impacte, vous, utilisateur lambda? Ben normalement, non, parce que jusqu'à maintenant, la plupart du temps, les brevets, bon, ben, ça va surtout concerner les périphériques professionnels, ça va plutôt concerner vraiment des usages très spécifiques. Mais là, il y a eu un petit geste, mais alors que je trouve hyper mesquin, de la part de deux entreprises. Donc, les entreprises en question, c'est HP et Dell, qui ont décidé, sur certains de leurs ordinateurs de base, ou alors sur les modèles plus comment dire, bon marché, ou pour certains modèles entreprises, ils ont désactivé le décodage matériel pour le codec H265. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, le H265, c'est un format d'encodage vidéo, et l'encodage vidéo à décoder, surtout quand on commence à parler de vidéo 4K, c'est assez lourd. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a un composant, en fait, on a la carte graphique, qui a une section qui est capable de décoder de manière plus efficace la vidéo. Et donc, on confie à la vidéo, à la carte vidéo, la vidéo elle-même, et la carte graphique va se charger de le décoder de manière optimisée. Mais, je ris parce que c'est un ridicule. L'utilisation de cette fonctionnalité requiert d'avoir une licence pour le codec HEVC, donc H265. Et il y a un prix à payer par appareil quand on souhaite activer cette fonctionnalité. Et donc HP et Dell, suite à une augmentation unilatérale et honteuse du montant de la licence en question, Dell et HP ont décidé sur certains de leurs ordinateurs de retirer la fonctionnalité. Donc, quel est le montant de cette augmentation? Le frais avant était de 20 centimes de dollars par appareil vendu, et donc désormais il est de 24 centimes de dollars par appareil, enfin en tout cas à partir de 2026. Donc pour 4 centimes de dollars par appareil, ces deux entreprises, donc HP et Dell, qui ont des milliards de dollars de chiffre d'affaires, pour lesquels je suis désolé, 4 centimes par appareil, c'est peanuts. Pour 4 centimes, ils ont décidé d'emmerder les consommateurs et de retirer la fonctionnalité, plutôt que de payer, encore une fois, 4 centimes par appareil. Les brevets logiciels sont ridicules et honteux, on persiste dans cette émission à le dire, dans le monde du logiciel libre, on continue de l'affirmer. Je sais pas là où est-ce qu'on se situe entre la frontière, entre le matériel et le logiciel, peut-être que, in fine, là-dessus, il y a un brevet sur du matériel, mais ça m'étonnerait franchement, puisqu'on est sur des puces qui sont tout à fait génériques. Mais surtout, là, voilà, c'est des entreprises qui décident d'emmerder leurs consommateurs juste pour 4 centimes de marge. Je trouve ça assez marquant, quand même. Et je pense que ça méritait parfaitement d'être évoqué ici. Alors, ça fait déjà un petit moment que je blablate, je vous propose une première coupure musicale, donc je laisse Alexandre prendre la main ici pour vous indiquer le morceau qu'il va vous passer.
Merci Pierre, nous allons donc écouter Ali Mills, Canyon.
I can hear
Et c'est reparti pour quelques actualités. Donc, après avoir parlé de grosses entreprises, je vous propose de parler de d'autres grosses entreprises. On va se faire une petite série sur du mobile. On va parler de GrapheneOS, d'Android et d'Apple un petit peu. Vous allez voir, on a de quoi se marrer. Donc, tout d'abord, parlons de GrapheneOS. GrapheneOS, qu'est-ce que c'est? On en a déjà parlé, je pense, dans cette émission. Ça existe déjà depuis une dizaine d'années. Donc, ça a commencé sous le nom de Copperhead OS. C'est une variante d'Android, donc qui est basée sur AOSP, donc le cœur libre d'Android, mais en y rajoutant tout un ensemble de fonctionnalités invisibles aux utilisateurs. Vraiment, à part juste quelques applications qui vont pas marcher, on y reviendra, mais ça rajoute un ensemble de fonctionnalités qui sont invisibles, mais qui permettent d'améliorer grandement la sécurité d'Android. Parce que ça, c'est un énorme défaut, c'est le défaut majeur d'AOSP, des variantes d'Android, c'est que la sécurité n'est pas forcément bien prise en compte. Alors, on va en reparler un petit peu après, des contraintes qui pèsent sur le choix de la sécurité aussi liées au matériel. Mais donc, ils ajoutent des fonctionnalités de sécurité qui sont importantes, qui permettent de protéger contre un ensemble de failles, qui en fait ils activent certaines choses par défaut parce que ben, ils savent que c'est ce qui est utilisé par des criminels pour espionner, pour prendre le contrôle d'appareils de leurs victimes. Mais, et c'est pour ça qu'on en a parlé beaucoup dans les actualités, le problème c'est que les victimes de criminels, elles se font attaquer par des méthodes qui sont les mêmes pour la police. La police, lorsqu'elle souhaite sonder un téléphone portable pour lequel elle n'a pas des codes d'accès ou quoi que ce soit, ben elle est obligée d'utiliser des méthodes de piratage, il n'y a pas d'autre mot. C'est essayer de prendre le contrôle d'un appareil sans en avoir le mot de passe, c'est une forme de piratage. Et ben là, il se trouve que la police est un petit peu embêtée, justement, avec GrapheneOS. On va en parler un petit peu plus. Et juste pour finir sur les aspects de sécurité de GrapheneOS, GrapheneOS n'est disponible que sur certains appareils, parce que, aussi, et c'est là où je trouve que leur travail est important, ils ne veulent pas faire de compromis sur la sécurité. La sécurité, c'est indispensable, et la sécurité commence avec le matériel. Il y a certains téléphones vendus aujourd'hui, même qui sortent encore aujourd'hui, pour lesquels le support des mises à jour n'est pas bon. On en a déjà parlé plein de fois, Google a à chaque fois mis ça en basse priorité, au mieux, pour laisser la marge aux fabricants pour se permettre de ne pas diffuser de mise à jour pour un appareil qui a déjà été vendu. Alors, on peut espérer qu'avec les différentes lois passées au niveau européen, ça s'améliore, mais jusqu'à maintenant, en tout cas, il n'y a pas eu de franche amélioration du comportement. Donc, GrapheneOS n'est compatible aujourd'hui qu'avec quelques modèles des Pixel Phone, parce que ce sont des téléphones vendus par Google, et Google impose à son fournisseur de puces, et du coup diffuse derrière des mises à jour sur une longue durée avec toutes les fonctionnalités de sécurité requises. Alors que sur d'autres téléphones, je vais pas donner de marge, je vais pas m'amuser à faire de dénonciation. De toute façon, tous ou presque sont concernés par ça. Même des entreprises assez vertueuses, en tout cas qui se prétendent vertueuses, sont concernées. Et donc, aujourd'hui, si vous voulez un téléphone franchement sécurisé, effectivement, GrapheneOS c'est probablement la meilleure solution, à condition de le faire tourner du coup sur un matériel supporté et donc le faire tourner sur un Pixel Phone. Mais GrapheneOS, du coup, comme je disais en introduction, a eu des petits problèmes avec la police et plus particulièrement en fait avec le Parisien. Le Parisien n'est pas la police, mais le Parisien est un journal français qui a publié un article fort sympathique, reprenant clairement les mots de la police. Selon la police judiciaire qui aurait transmis une information confidentielle à tous les autres services, les trafiquants échangent des données à l'abri de la justice grâce au téléphone Google Pixel et au système d'exploitation GrapheneOS. Ils considèrent que ils ont jamais réussi à ouvrir ces téléphones, ils ont jamais réussi à accéder au contenu, et donc là ils donnent des exemples en disant ouais, lorsque la police a essayé d'exploiter le téléphone et a essayé d'extraire des données, le téléphone s'est mystérieusement réinitialisé. J'adore le mystérieusement. Et voilà, ils disent c'est honteux que, grosso modo, ils en viennent à dire que utiliser GrapheNOS, c'est déjà être un signe de malveillance. Ça va assez loin, je trouve, comme déclaration. Donc l'équipe de GrapheNOS a considéré l'article du Parisien comme étant une déclaration de guerre, avec le fait que l'article est à charge, il y a des raccourcis, il y a des citations tronquées, il y a des déformations de citations. Donc en gros, donc ce qu'affirme l'équipe de GrapheNOS, c'est que ben GrapheNOS ne vend rien, ils n'ont pas de clients, pas d'usagers, ils fournissent un système qui est gratuit, enfin qui est téléchargeable gratuitement, utilisable sur les téléphones Pixel sans contrainte, et c'est tout. Ils ne vendent rien, je le répète. C'est un logiciel libre et ouvert, parce que ben justement, il développe pas finalement grand chose, c'est juste une variante d'Android. C'est pas un travail si colossal que ça. Et ils insistent sur le fait que ben des professionnels de la sécurité recommandent GrapheNOS, et c'est vrai, tout à fait, c'est l'un des systèmes de mobile les plus recommandés de ce point de vue-là, et c'est nécessaire pour des militants des droits de l'homme, pour des journalistes, pour des avocats, pour des personnes qui ont besoin de sécurité dans leur communication. Et ils pointent aussi le fait que bandits et trafiquants utilisent, alors je cite, des couteaux, des voitures rapides et de l'argent liquide, et que ces choses-là, pourtant, ben on va pas dire « Ah ben c'est des trucs de criminels, il faut arrêter ». Si on prend l'exemple des billets de 100, 200, 500 euros, mais il n'y a pas grand monde au quotidien qui en a besoin, donc finalement, est-ce que... je suis assez d'accord avec leur logique, hein. L'argent liquide, c'est des criminels qui se servent d'argent, les criminels se servent d'argent liquide, donc pourquoi est-ce qu'on ne va pas dire, l'argent liquide est un problème? Mais bon, je pense qu'on n'est pas à une contradiction près aujourd'hui. Et donc là, l'équipe de GrapheNOS, ils sont vraiment, en rogne, parce qu'en plus, l'actualité a été reprise aussi au niveau de France Info, donc, Je cite à nouveau, donc GrapheNOS serait utilisé par des groupes criminels liés au narcotrafic pour dissimuler des activités réalisées avec leur téléphone portable et empêcher leur exploitation par les services d'enquête. Il permet notamment d'effacer les données du téléphone lorsqu'il est utilisé par un tiers. Et oui, mais c'est normal en fait, un effacement automatique. Moi j'ai souvenir, il y a une quinzaine d'années, bon c'est pas nouveau, hein, une quinzaine d'années, c'était pas un collègue, c'était un autre contributeur à un projet libre qui expliquait avoir eu une blague sur son téléphone une fois. Sa fille, qui était âgée de quelques années, avait pris son téléphone et avait fait à plusieurs reprises un mauvais mot de passe, et le téléphone s'était effacé automatiquement. Tout le contenu professionnel du téléphone s'était effacé parce que c'était un téléphone d'entreprise, et donc la sécurité de l'entreprise implique que si un mauvais mot de passe est saisi à plusieurs reprises, le téléphone s'évase. C'est normal. C'est une sécurité élémentaire pour les entreprises. Mais là, par contre, avoir ce genre de sécurité pour les particuliers, c'est être un criminel. Donc voilà, l'équipe de Graphen est furax, donc je cite leur réponse. La France est un pays de plus en plus autoritaire, sur le point de devenir bien pire. Ils sont déjà de très fervents partisans du contrôle du chat de l'Union Européenne. Leur application fasciste de la loi est clairement en avance sur la situation, diffusant des informations fausses et scandaleuses sur des projets open source de confidentialité. Rien de tout cela n'est prouvé. Donc, clairement, là, ils ont affirmé derrière, enfin, ils ont décidé derrière de quitter le marché français. Alors, quitter le marché français, excusez-moi. De quitter la France, de plus accepter d'organiser l'événement de conférence ou quoi que ce soit en France, ils ont demandé à leurs contributeurs d'éviter le pays, tout simplement. Et ils se considèrent comme en danger s'ils viennent en France. Au passage, ils ont balancé quelques pics contre d'autres projets, donc notamment iOS et iODOS, qui sont des projets reprenant eux aussi AOSP et se vendant comme des avantages en matière de vie privée, parce que justement ces projets ne sont pas aussi à la pointe que GraphenOS sur la sécurité, et ils considèrent que justement c'est une forme de mauvaise foi pour ces projets que de se défendre à ce point comme étant des projets respectueux de la vie privée, alors que ils ont des trous béants. Donc, GraphenOS ne va pas disparaître avec tout ça, heureusement. Mais par contre, c'est effectivement, je suis tout à fait d'accord avec leur inquiétude sur le discours qui est tenu à leur endroit, et l'impact que ça peut avoir pour nous tous, en fait, toutes les gens qui sont sensibles à la vie privée, les gens qui sont sensibles aux problématiques de sécurité informatique. GraphenOS, c'est juste un système d'informatique sécurisé par défaut. Ça me semble inouï. Qu'est-ce que ça va être demain? Est-ce que demain, ça veut dire que mes ordinateurs qui ont le chiffrement de disque activé, est-ce que mes ordinateurs vont être considérés, c'est des machines de criminels, puisqu'il faut un mot de passe pour les allumer, si la machine est éteinte, on peut pas récupérer les données sans un mot de passe, et on peut pas craquer le truc, y a pas de porte dérobée. Ça me semble indécent comme attaque. C'est lorsqu'il y a les échanges de courriers, est-ce qu'on accepterait que n'importe quel organisme puisse venir et ouvrir tous les courriers? C'est normal, hein, quand même. Vous n'avez pas le droit d'échanger des courriers de manière privée par la poste, quand même. Il y a des limites, hein. Non, jamais on ne s'attendrait à ça. C'est insensé, jamais. Mais là, non. Puisqu'on est sur du téléphone, on est censé pouvoir être espionné. Il n'y a aucun problème. L'espionnage est normal. Donc, c'est assez inquiétant. Donc, ça va être une affaire à suivre, on en parlera dans les prochaines semaines. Il n'y a pas de raison que GraphenOS disparaisse, puisque ils sont pas basés en France, heureusement pour eux, parce que je pense que sinon ils auraient déjà eu des petites réunions intéressantes avec les forces de sécurité. Et je rappelle que, effectivement, dans des audits de sécurité, alors je suis désolé, j'ai oublié de noter le nom de l'entreprise qui a fait ces rapports, sur tout un ensemble d'appareils, GraphenOS est l'un des seuls à avoir résisté à toutes leurs tentatives d'extraction de données. C'est la meilleure solution pour avoir un téléphone portable sécurisé aujourd'hui, ça semble être GraphenOS, point. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de débat autour de ça. On va continuer sur tout ce qui est Android. On a quelques autres actualités, Android, et après on va parler un petit peu d'Apple. Donc, tout d'abord, une annonce qui a été passée du côté de Google. Alors, à mettre au conditionnel, a priori, Google travaillerait bien sur un projet qui se nomme Aluminium, et pas Aluminum, donc c'est un nom britannique, c'est un peu surprenant, Aluminium OS, qui vise à fournir une version d'Android, donc unifier finalement tous les systèmes de Google, donc Android et Chrome OS, en une seule plateforme qui fonctionnerait sur tout. Donc une version d'Android pour ordinateur portable, avec, puisque nous sommes en 2025, avec un système d'IA central intégré, avec on ne sait pas quel détail, qu'est-ce qui changerait la donne. Donc ça y est, Google se lancerait vraiment sur un système unique pour tous les ordinateurs. Alors, j'ai des gros doutes sur le succès d'une telle entreprise, hein. On a déjà vu Google régulièrement échouer à sortir des produits, hein. Le cimetière de Google est bien rempli, mais donc ça va être une affaire à suivre. Je suis circonspect, hein, pour le coup. L'annonce de toute façon n'est pas encore complète pour le moment, on ne sait pas ce que ça va donner, mais moi, je suis extrêmement sceptique sur le succès que pourrait avoir un Android sur le marché de l'ordinateur de bureau, que ce soit l'ordinateur portable ou l'ordinateur fixe, même si clairement on va plus parler d'ordinateur portable pour ça. Les applications Android ne sont pas adaptées à l'initiation de bureautique. Tout comme ça a été l'un des problèmes qu'a eu Microsoft lorsqu'ils avaient voulu lancer Windows Mobile, Windows Phone. Finalement, ils se sont rendus compte que les applications ne peuvent pas être les mêmes. Même si le cœur de l'application pouvait être le même, il faut que l'interface soit spécialisée, il faut que certaines fonctionnalités en soient retirées, et finalement, ça fait quelque chose d'extrêmement complexe. Donc, je suis pas sûr qu'il y ait un grand succès, mais voilà, il y a ça qui se prépare. Et enfin, pour finir sur Android, il y a une fonctionnalité qui a été annoncée tout récemment par Google, alors ça ne sera supporté que sur leur téléphone Pixel au début, ça viendra sûrement sur les autres appareils après. Je sais pas trop, j'ai pas souvenir que ce soit passé auprès de la presse grand public, parce que de toute façon, voilà, c'est une information purement technique, mais désormais, sur les Google Pixel 10, et à venir d'autres téléphones, il sera possible d'utiliser la fonctionnalité AirDrop. Donc, qu'est-ce que c'est AirDrop ? AirDrop, c'est la fonctionnalité d'Apple qui permet de partager des données sans fil entre iPhone, iPad, iPod, je crois même à l'époque, et ordinateur sous macOS. Donc la fonctionnalité de base se présente un petit peu comme vous vous connectez en Bluetooth entre les appareils, puis vous utilisez AirDrop pour envoyer les données, et hop, ça envoie les données à un débit bien supérieur à ce que permet le Bluetooth. Quelle est cette magie ? Ben en fait, c'est très simple. Lorsque la connexion Bluetooth est établie, les deux appareils échangent entre eux des informations pour créer une connexion Wi-Fi à côté de la connexion Bluetooth, et sur cette connexion Wi-Fi qui a une bien meilleure bande passante, ils échangent les données. C'est aussi basique que ça. Sauf que jusqu'à maintenant, c'était entièrement verrouillé par Apple. Et c'est là où c'est intéressant. Grâce à l'Union Européenne, désormais, Apple a eu l'obligation de supporter des standards, comme le standard Wi-Fi Aware en remplacement du format AWDL, Apple Wireless Direct Link, qui était utilisé en fait pour le fonctionnement d'AirDrop. Et donc, Apple ayant l'obligation de supporter cette nouvelle norme, Google a pu l'implémenter et a pu implémenter finalement une compatibilité avec la fonctionnalité AirDrop sur iOS. Petit point par contre amusant, la fonctionnalité n'est pas compatible a priori avec macOS parce que macOS n'est pas un gatekeeper du point de vue du DMA, c'est pas une barrière, puisque macOS n'a pas de part de marché suffisante. Et donc Apple n'a pas été contrainte par l'Union Européenne d'intégrer la compatibilité avec la nouvelle norme sur macOS. Mais par contre, sur iOS et sur iPad, la compatibilité a été imposée. Et donc, c'est la preuve que la régulation par la loi, ça marche. Point. Y a pas à discuter, la régulation fonctionne. Alors, Google, par contre, dans son communiqué sur la compatibilité, Google ne dit pas que c'est grâce à la loi européenne. Pour une raison simple, ils sont en guerre contre cette loi parce qu'ils sont menacés d'immenses amendes sous la base de cette loi. Et de son côté, Apple augmente son offensive et a porté plainte contre l'Union européenne à cause de cette loi, parce que vous comprenez, imposer l'interopérabilité, c'est un scandale. Voilà, c'était pour la partie sur les grosses entreprises. On va changer de sujet après. On va parler un petit peu plus de petits logiciels. On va parler de quelques de logiciels libres. On va changer un petit peu après. Parce que là, ça commence à me fatiguer de parler de grosses entreprises. J'aimerais bien parler de choses plus positives dans le monde. Donc, je vous laisse avec un second morceau de musique choisi par Alexandre. Alexandre, c'est à toi.
Et ce sera du jazz avec JDM Musique Nougaronne.
Tu inondes les quais dès que l'orage arrive, on te traverse à gué l'été de rive en rive, et j'écoute le vent caresser tes frissons sous le pont catalan qui me parle gascon. Quand souffle le vent d'automne, on voit sur le bazar le bal des goélands nous donner un spectacle. Les baquettes dans les mains, j'imagine déjà des rythmes et des refrains de rock et de java. Non, je ne l'ai jamais dit à personne. Au fil de l'eau, Nougaro, mais c'est pour toi que ma musique sonne, toi le petit taureau, Nougaro, Nougaro. Un doux camailleux d'un tableau rouge et noir, un air d'accordéon qui fait danser la foule, s'envole décourdi où les amants roucoulent. La virgule c'est un con, comme le dit le poète, ces vers sont si féconds qu'ils m'emmènent en goguette. Il y a dans ces chansons la colère et l'amour, le coq et la boisson, et des mots de velours. Je revois mon pépé taquiner le goujon, sa casquette sur le nez, surveiller le bouchon. Le gamin que j'étais apprenait les leçons qu'il me donnait l'été au bout de l'hameçon. Il coule dans mes veines ces deux mots enlacés, comme le roi et la reine à tout jamais fiancés. Deux mots qui font la ronde au cœur de ma cité, un chant qui vagabonde, un air de liberté. Thank you. Non, je ne l'ai jamais dit à personne. Au fil de l'eau, Nougaro, mais c'est pour toi que ma musique sonne, toi le petit taureau, Nougaro, Nougaro. Nougaro, Nougaro, Nougaro.
Et c'est parti pour la troisième partie des actualités. Alors on va parler de quelques petites actualités logicielles de ces dernières semaines. Bon, pas, il n'y a pas forcément de sujet important, parce que bon, on est sur la fin de l'année en général, l'actualité logicielle est toujours un peu plus calme, mais quelques petites annonces assez intéressantes, je pense, pour tout le monde. Donc ça va être l'occasion d'en parler. On va commencer par parler un petit peu. Alors, il va y avoir du croisement entre du matériel et du logiciel nécessairement. On va commencer par parler de matériel. On va parler un petit peu de matériel. On va être à l'intersection, c'est un petit peu compliqué. On va parler un petit peu de console de jeu et surtout de. On va commencer par parler de HDMI. Donc HDMI, vous êtes tous au courant, c'est cette magnifique prise que vous avez sur tous les appareils. Alors, chaque prise coûte de l'argent à poser parce qu'il y a une licence à payer déjà, hein, c'est bon à savoir. Donc à nouveau, on en parlait tout à l'heure de frais idiots, c'est pour ça que vous avez notamment sur les cartes graphiques de PC, vous avez souvent un port HDMI et 3 ou 4 ports DisplayPort. Bah, c'est parce que le DisplayPort, il n'y a pas le frais. Il n'y a pas les frais, c'est gratuit, c'est les mêmes fonctionnalités, ça fonctionne pareil, mais il n'y a pas à payer une licence à la con. Et on en avait déjà parlé, il y a eu le cas de AMD, qui a un gros problème, ils ont fait tout le travail pour supporter, enfin pour avoir la compatibilité avec la norme HDMI 2.1 dans leur pilote de carte graphique, mais le forum HDMI, donc ceux qui gèrent la norme HDMI, leur ont interdit de diffuser l'implémentation en question parce qu'elle serait contraire à leurs prérequis pour la compatibilité avec leur licence. Et cette semaine, alors AMD a sorti un pilote alors pour un autre matériel, donc le pilote pour les cartes Xilinx, un petit peu spécifique. Donc on trouve ça sur certaines de leurs cartes, mais c'est relativement rare. Et là par contre, hop, ben là, il y a le support du HDMI 2.1 qui fonctionne. Donc c'est... Pourquoi ? Ben tout simplement parce que ben, ces cartes-là, le HDMI 2.1, est implémenté par le matériel, et uniquement par le matériel, et par un logiciel embarqué dans le matériel. Et donc ben là, le forum HDMI dit « Ah non, là, il n'y a pas de problème, vous pouvez l'activer. » C'est juste que, pour une raison purement arbitraire, c'est juste un choix de licence, il est toujours interdit aujourd'hui d'avoir un logiciel libre qui implémente la norme HDMI 2.1. Si chez vous, vous faites tout le travail de rétro-ingénierie, etc. pour implémenter le HDMI 2.1 et les diffuser ce code, je pense très sincèrement que vous pourriez vous retrouver avec les flics qui débarquent chez vous pour violation du Digital Millennium Copyright Act. Je pense que ça pourrait aller à ce niveau-là, c'est comme à la grande époque, donc dans les années 90, lorsque vous osiez lire un DVD sous Linux ou vous affranchir du zonage des DVD, c'était un scandale, et l'auteur de la librairie LibDVD CSS à l'époque avait reçu une petite visite chez lui, alors qu'il vivait en Europe, hein, bien loin de la juridiction américaine. Donc, pour continuer un petit peu sur AMD, AMD fait partie de l'équation. Valve, l'éditeur de jeux vidéo qui a poussé énormément pour la compatibilité de Linux pour les jeux ces dernières années, a annoncé pas mal de nouveautés. Alors, ils ont surtout les deux nouveautés principales, c'est la Steam, la nouvelle console Steam, donc qu'ils ont appelé la la Steam Machine, voilà. Donc une nouvelle Steam Machine, ils en avaient sorti une il y a quelques années. Alors, c'est assez joli à voir comme ordinateur. C'est un ordinateur sous la forme d'un cube. Alors, j'ai pas les dimensions exactes, mais c'est la même taille qu'une console de salon, sauf que c'est un ordinateur complet dedans. Donc avec un processeur et une carte graphique intégrée AMD, alimentation NVMe, etc. Donc ça fait 13-14 cm de dimension. Donc c'est un cube, hein, donc voilà, imaginez une boîte de 13-14 cm. Et avec quelques petits trucs sympathiques, alors une façade interchangeable, une petite barre de LED en bas pour avoir des effets, genre afficher barre de progression de chargement, ce genre de choses. Donc cette console fonctionne par défaut sous Linux, et donc, point notable, la prise HDMI est limitée au 2.0, parce que... c'est pas bien de faire du logiciel libre et d'essayer de supporter HDMI. Mais donc voilà. Ah, c'est une nouvelle console par Steam, donc espérons que ça va à nouveau accroître les parts de marché du jeu sous Linux, et donc in fine accroître les parts de marché de Linux globalement. Et autre annonce un petit peu plus importante du point de vue, du point de vue logiciel, même si elle est accessoire sur l'effet que ça va avoir sur le marché, Valve a annoncé un deuxième produit, le Steam Frame. Donc c'est un casque VR, donc réalité virtuelle pour les francophones. Et une particularité, c'est que il fonctionne avec un processeur ARM un Snapdragon. Et par contre, il peut quand même faire fonctionner Steam et tous ses jeux. Ça, normalement, pour les personnes technophiles, ça doit poser des questions, parce que comment ça faire fonctionner tous les jeux, puisque les jeux sont diffusés pour Windows, pour PC, donc pour des processeurs AMD 64, donc enfin x86. Donc, c'est pas compatible, c'est pas les mêmes instructions. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'ils font? Que fait Valve ici? Et donc Valve a décidé d'introduire dans SteamOS la compatibilité avec FEX, qui permet de faire tourner des applications x86 sur un système ARM. Et donc, maintenant, nous avons donc le Steam Frame, donc qui est un ordinateur, mais avec écran intégré pour faire casque VR, qui fait fonctionner SteamOS, donc avec l'environnement K2 Plasma, et qui réussit à faire tourner nativement des applications, des jeux PC, et en plus, qui est capable d'installer des applications Android. Donc c'est vraiment... J'ai aucun intérêt dans les casques VR personnellement, mais je trouve que la réalisation est plutôt bonne, là, et ça va permettre de montrer à tout le monde que on peut se libérer à la fois de Windows et peut-être du duopole Intel-AMD sur du matériel pour un usage générique. Et c'est... Franchement, je suis assez bluffé du fait que Valve fournissent officiellement le support de tout ça. Ça veut dire aussi que ces technologies, qui jusqu'à maintenant, à ma connaissance en tout cas, étaient surtout développées par des volontaires, des enthousiastes, des gens qui avaient envie de jouer sur leur PC ARM ou sur leur MacBook, qui avaient envie de jouer au jeu Windows, le tout sous Linux, on est quand même là sur un beau changement, et surtout le fait que Valve apporte son support financier derrière tout ça, c'est plutôt une excellente nouvelle. Donc ça va être à suivre, on va voir ce que ça a comme impact sur le monde du matériel. On va continuer un petit peu d'ailleurs à parler un peu d'Android et de matériel. Donc tout d'abord, Android Alors, on en avait beaucoup parlé, il y a quelques mois, Google avait annoncé l'obligation pour toutes les applications d'être certifiées chez eux, même pour être diffusées en dehors du Play Store. Donc, a priori, Google va revenir là-dessus. Alors, comme à chaque fois, lorsque Google revient sur quelque chose, en fait, Google annonce quelque chose, il y a une levée de bouclier, ils disent « Ah, ok, on le fait pas », ils font une forme édulcorée, et X mois, X années plus tard, ils disent « Ah ben c'est bon, maintenant que vous êtes habitué à la forme édulcorée, on passe à la forme complète ». Donc je m'attends pas à ce que Google abandonne complètement cette idée qui, je vous le rappelle, signifierait la fin pour les stores alternatifs, donc que ce soit du F3Oid ou... alors j'en ai pas d'autres en tête parce que F3Oid c'est le store principal d'applications libres. Et donc ça signifie à la fin pour tous ces magasins-là, il ne serait plus possible de diffuser l'application en dehors du passage par Google, et je rappelle que Google est soumis aux lois américaines, donc des applications comme IceBlock pour signaler la présence de la police de l'immigration seraient bannies définitivement. On avait parlé aussi il y a quelques semaines de Qualcomm qui avait annoncé son rachat d'Arduino, et donc là clairement ça commence à se friter déjà. Donc il y a eu un changement du côté d'Arduino, enfin Qualcomm a annoncé un changement de licence sur l'utilisation de l'éditeur d'Arduino, avec des nouvelles contraintes, le fait que Qualcomm ait le droit de réutiliser tous les développements qui soient réalisés, etc. Des contraintes sur la rétro-ingénierie, ce genre de choses. Alors, Arduino affirme que, mais non, c'est juste un changement parce qu'on commence à fournir des services d'IA et c'est normal de mettre à jour les conditions d'utilisation. Mais à nouveau, là, il y a beaucoup de questions qui sont laissées sans réponse et globalement, là, la communication d'Arduino est désastreuse et c'est assez compliqué de savoir ce qui va se passer du côté d'Arduino. Ça, faut juste savoir, donc, il y a un gros doute. Arduino, donc, je suis désolé, j'ai oublié de le rappeler. Fabricants de puces qui sont très utilisés dans le monde du do-it-yourself par les gens qui font des petits bricolages chez eux, parce que c'est des puces qui sont pas très chères, qui sont très faciles d'accès, avec beaucoup de documentation, une forte communauté, donc forcément c'est un succès énorme, et Qualcomm a décidé de racheter l'entreprise pour vendre ses produits. Mais voilà, là on a des grosses craintes finalement sur ce qui va advenir du côté open source d'Arduino. Donc à suivre sur ce côté-là. Et enfin quelques petites nouvelles logicielles avant de vous laisser sur un dernier morceau de musique, parce que je pense que vous m'aurez assez entendu, on approche même des 45 minutes de contenu. Donc quelques petites nouvelles logicielles, on n'en parle pas, j'essaye d'en parler, mais c'est vrai que c'est pas le sujet qui passionne le plus les foules. On a d'autres moteurs de rendu de sites web qui arrivent, d'autres que Geeko, donc celui de Firefox, et Blink ou WebKit de Chrome, qui est dérivé donc de WebKit, qui est utilisé par Apple. Donc on a Servo qui a sorti sa première version, alors c'est une version 0.0.1, c'est une première version de démo, c'est pas très utilisable, il y a beaucoup de sites qui ne fonctionnent pas, mais ça reste l'une des meilleures chances, on va dire, d'avoir un moteur concurrent à Geeko, donc à Mozilla et à Google pour l'affichage de sites web, et c'est plutôt positif d'avoir ça, même si clairement c'est un marché de niche pour l'instant. J'espère qu'ils vont se développer. Si vous êtes intéressé par les moteurs de rendu de sites web, n'hésitez pas à y jeter un œil, ça change. On a quelques nouvelles du côté de KDE qui a annoncé là on a quelques développements qui sont en cours. Plasma 6.6 et va bientôt sortir. Plasma 6.7 sortira au début de l'année prochaine, et ils ont annoncé que Plasma 6.7 serait la dernière version à être compatible avec X11. Donc c'est ça y est, KDE saute le pas également, donc à la suite de GNOME. Désormais c'est enfin la fin de X11, donc qui servait d'interface graphique sur les systèmes Unix depuis les années 80 tout de même, et clairement qui n'était plus possible d'utiliser aujourd'hui avec notre matériel. Les évolutions ont été telles que de toute façon ça fait 20 ans qu'on utilise un X11 avec un mode qui est complètement détourné de ce qu'il était censé être. ça y est, maintenant on se débarrasse enfin de tout ce que cela représentait. Les applications continueront d'être compatibles avec des X-Wayland et ce genre de fonctionnalités, bien sûr. Mais voilà, le projet KDE a décidé de devenir uniquement compatible avec Wayland pour simplifier, accélérer son développement et améliorer les fonctionnalités pour tout le monde. Donc là aussi, on en reparlera lorsqu'ils sortiront, mais Plasma 6.5 est sorti il y a quelques semaines avec un ensemble d'améliorations, le 6.6 sortira prochainement, début d'année prochaine, je pense qu'on en parlera plus lorsqu'il sortira, et j'essaierai de ne pas oublier de parler des nouveautés de la 6.5, donc je vous ai raté malheureusement. Et une petite dernière, pour s'amuser, donc on parlait de codec, de format, etc., de brevets, tout ça, et... Il y a un format qu'on utilise depuis les années 90 et qui a toujours pas été remplacé malheureusement malgré les évolutions de la technologie. On utilise toujours énormément le format JPEG pour échanger des images. Et on avait parlé il y a 3 ans, je crois, de la décision de Google de retirer le support du JPEG XL, une nouvelle version de JPEG, de son navigateur Chrome. Et vu la position de Chrome, l'absence de support de JPEG XL dans Chrome, c'est l'absence de support de JPEG XL partout. Clairement. C'est la fin de ce format-là. Donc, heureusement, là, Google annonce que finalement, ils sont en train de considérer la réintroduction du support du JPEG XL au sein de Chrome. Donc, à suivre. On sait Google, hein, ça bouge un peu bizarrement. Donc, à suivre, est-ce que Google va vraiment l'introduire, sachant que c'est tout de même une avancée considérable pour le stockage, la compression d'images, ce genre de choses. C'est un format qui est nécessaire aujourd'hui, parce que on a des écrans qui n'ont plus rien à voir avec les écrans de l'époque, il est plus que temps d'avoir tout ça. Voilà, c'était pour les actualités de ces 4-5 dernières semaines écoulées. Je vous ai essayé de vous faire un pot-pourri d'actualité, je vous ai pas fait vraiment une déguisation, j'ai fait des actualités prolongées, j'espère que le format comme ça vous a plu, n'hésitez pas à nous envoyer un mail pour vous dire si c'est le cas ou s'il y a des choses qui vont pas, même si on répond pas forcément, on essaye de lire les mails. Alors j'ai eu 2-3 problèmes avec mes serveurs récemment, donc j'ai pu ne pas voir tous les mails malheureusement, je vais tâcher d'y prendre, de prendre un peu plus soin de mes machines là prochainement pour améliorer la situation. En tout cas, on se retrouve normalement dans 2 semaines pour une émission, cette fois en direct, depuis les studios de la radio, ça commence à me manquer moi aussi de toute façon, et je vous avoue que l'enregistrement depuis chez soi c'est tout de même vachement moins fun. En tout cas, merci de m'avoir écouté, d'avoir écouté la sélection de musique d'Alexandre, je sais pas si Alexandre au montage aura rajouté des actualités ou autres, mais merci beaucoup de votre présence, et puis on se retrouve dans 2 semaines, ciao bon dimanche.